Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bosuma.
La RDC commémore aujourd'hui 17 janvier le 63e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre congolais. Dans son discours du 30 juin 1960, célébrant l'indépendance du pays, Lumumba rappelle la longue lutte du peuple congolais jusqu'à la souveraineté, vous l'entendrez. Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Côte d'Ivoire 2023. La RDC joue son premier match ce soir face à la Zambie. Certains Congolais espèrent la victoire des Léopards, mais d'autres expriment leurs craintes à cause de l'effectif vieillissant des fauves congolais, disent-ils. Madame, Messieurs, bonjour. 17 janvier 1961, 17 janvier 2024, cela fait 63 ans exactement que le premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, figure emblématique des indépendances africaines, a été assassiné à Elisabethville au Katanga. Le discours qu'il avait prononcé le 30 juin 1960 au cours de la cérémonie célébrant l'indépendance de l'ex-Congo belge est resté dans les annales. Lumumba y rappelle la longue lutte ardente et idéaliste du peuple congolais jusqu'à la souveraineté. On écoute Patrice Emery Lumumba dans cet extrait proposé par Alain Rungmushinji.
Cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais, Dieu de ce nom, ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fuit des larmes, des feux et des sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange des salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers.
De la commémoration d'un héros national à un autre, 16 janvier 2001, 16 janvier 2024, 23 ans jour pour jour depuis que Mzé Laurent Désiré Kabila a été assassiné au Palais des Marbres à Kinshasa. À cette occasion, un culte d'action de grâce a été organisé hier par la fondation qui porte son nom à la cathédrale du centenaire protestant. C'était en présence des membres de la famille biologique, quelques membres du gouvernement et compagnons des luttes du troisième président de la RDC. C'est un reportage de Murphy Fika et Marie-France Mungindu.
C'est cette ambiance qui a caractérisé la commémoration des 23 ans d'assassinat de Mzé Laurent Désiré Kabila en la cathédrale du centenaire protestant. Dans son message tiré du livre de Deux Rois chapitre 22, 1 à 2, le révérend Membe a révélé que Laurent Désiré Kabila fait partie de l'école du roi Josias. Pour le ministre de l'Industrie Julien Paluku Karungia, ce message doit être capitalisé par tous.
Les deux ont presque en commun deux souvenirs importants. Le premier souvenir, c'est l'amour pour la nation et les deux deuxième souvenir, c'est le refus des antivaleurs et le refus de la médiocrité et qui devrait être dans le quotidien de chacun de nous.
L'idéologie du troisième président de la RDC, à savoir ne jamais trahir les Congos, doit être intériorisée et appliquée à jamais dans le vécu quotidien des Congolais, comme le précise Christophe Colomoni, l'ancien DG de la RTNC.
Il a fait que nous puissions, dans un concert d'action de conscience, nous délivrer et aussi nous apprêter à interroger son message qu'est ne jamais trahir le Congo.
Cette commémoration s'est clôturée par le dépôt des gerbes et des fleurs au mausolée du fait président Laurent Désiré Kabila.
Parlons à présent de l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi le samedi 20 janvier 2024 à Kinshasa. À cette occasion, le Stade des Martyrs fait peau neuve. À l'intérieur, l'entreprise Icons Crea Stratégie effectue les travaux d'installation de la tribune où le président réélu fera son discours. Et à l'extérieur, le mur de ce stade reçoit une nouvelle couche de peinture. Des détails dans ce reportage de Alpham Poissa et Blaise Shindani Kambala.
Le stade des martyrs va accueillir un grand monde et de nombreuses personnalités du monde politique dans le cadre de la cérémonie d'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vainqueur à la présidentielle du 20 décembre dernier. En prévision de cette grande cérémonie, le travaux de grande envergure se font actuellement aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de ce temple du football. Aux abords du stade, de jeunes habillés aux chasubles verts sont en train de curer tous les caniveaux et enlever les herbes. La Commission nationale de prévention routière CNPR en sigle refait le marquage au sol sur le boulevard Triomphe. Le mur du stade de Martyrs reçoit en ce moment un coup de peinture. À l'intérieur du stade, un podium de 3000 mètres carrés de longueur est en érection pour recevoir au moins 2600 personnes, les officiels. Un autre podium placé dans l'aire de jeu juste au milieu servira de la prestation de serment devant le juge de la Cour constitutionnelle. Une tente est placée à droite de la tribune juste à l'entrée principale et servira de l'antichambre de la Cour constitutionnelle et légèrement à côté d'une infirmerie. Juste à l'entrée du stade du côté de l'avenue Asosa, un prospectus grandeur nature avec l'effigie du chef de l'État annonçant la cérémonie de l'investiture du samedi 20 janvier. Cela démontre l'importance que le gouvernement accorde à cet événement qui marquera le début du second quinquennat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Parlons sport à présent. Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. La RDC joue son premier match ce mercredi face à la Zambie. Si certains Quinois interrogés espèrent la victoire des Léopards, d'autres par contre expriment leurs craintes à cause, disent-ils, de l'effectif vieillissant des fauves congolais. On les écoute au micro de Blaise Chindani et Alpha Mpoissa.
C'est vrai que par patriotisme, nous devons soutenir notre équipe. Mais sincèrement, il n'y a pas d'équipe type qui doit faire l'affaire. Nous allons, c'est pour jouer le tout pour tout. Essayer de voir, donc ça sera match pour match, pour voir les résultats, comment ça va donner. Et surtout que nous sommes habitués à travailler avec des calculettes pour avoir les résultats finaux. Donc ça ne nous inquiéterait pas. Pronostic, on peut gagner 1-0.
C'est une équipe qui n'est pas expérimentée par rapport à la compétition, mais c'est une équipe talentueuse qui peut faire du mal face à différents équipes qu'elle pourra rencontrer lors de cette compétition. Alors personnellement, je crois en cette équipe puisqu'elle est talentueuse et elle peut faire la différence lors de cette phase finale de la CAN. Mais je pense que l'RDC pourra battre cet adversaire par le score de 2-0. Là, c'est mon pronostic.
Cet effectif de 27 joueurs de Sébastien Desabre est un effectif plutôt vieillissant. Des joueurs qui sont âgés entre 24 et 33 ans. Le plus vieux, c'est bien Cédric Bakambu qui est né en 91 en avril. Et donc, qui va avoir bientôt 33 ans.
Notez que les Léopards jouent contre les Chipolopolo à 21h, heure de Kinshasa. Direction le Nord Kivu. Les responsables militaires des FARDC et ceux de la force de la SADC se sont retrouvés hier à Goma. Une rencontre de planification. C'est entre autres les commandants des opérations au Nord et Sud Kivu, le commandant de la force terrestre de la RDC, le lieutenant-général Falsi Kabwe et le commandement de la force de la SADC, Samir RDC. Le compte-rendu de Sifa Maguru.
Dans une courte déclaration, à l'issue de cette rencontre, le lieutenant-général Falsi Kabwe a réaffirmé que la force de la SADC vient opérer aux côtés des FARDC dans les opérations contre les rebelles du M23 avec un mandat offensif, a-t-il précisé. Sans donner plus de détails sur les déploiements de la force Samir RDC, le général Sikabwe a indiqué que cette force est composée des militaires sud-africains, malawites, tanzaniens et autres composantes de la SADC sans les citer. Falsi Kabwe appelle la population déplacée à faire confiance à cette mission offensive qui consiste à récupérer les territoires qui ont été illégalement occupés par l'ennemi afin que celle-ci puisse rentrer dans son terroir, dit-il. Rappelons que la force Samir RDC a commencé son déploiement au Nord Kivu à la mi-décembre avec l'arrivée d'au moins 400 soldats sud-africains. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Au sud Kivu, pendant ce temps, 458 cas de tuerie, 290 cas de kidnapping et 159 cas de viol ont été répertoriés du 13 janvier 2023 au 13 janvier 2024 par la Société civile des compatriotes congolais. Cette structure l'a fait savoir dans son rapport sur le monitoring sécuritaire de la province et estime que la situation sécuritaire est préoccupante. Des actions urgentes sont nécessaires pour protéger la population. Le condensé de ce rapport avec Rachel Kessé.
D'après ce document, le territoire de Fizi occupe la première place avec 119 cas de tuerie, suivi du territoire d'Ouvira avec 68 décès. Le territoire de Mwenga et Didjui occupe la troisième place avec chacun 50 cas de tuerie. Dans le territoire de Walungu, 40 cas ont été enregistrés, 38 cas à Kabare, 30 cas à Kalehe, 28 à Shabunda, 20 dans la ville de Bukavu et 15 dans la ville d'Ouvira. La société civile de compatriotes congolais n'a pas précisé dans ce document si ces chiffres étaient répertoriés pour les cas de tuerie par balle, par machette, par accident des circulations routières ou par les catastrophes naturelles, mais a indiqué que la situation sécuritaire était très alarmante sur toute l'étendue de la province. En ce qui concerne les cas de viol, cette structure rapporte que les territoires de Fizi bat le record avec 32 cas de filles et femmes violées au cours de l'année 2023. À la suite de ce bilan sombre, le coordonnateur de la SOCICO demande aux autorités locales et à la MONUSCO de multiplier les stratégies en vue de sécuriser les citoyens et leurs biens pour un développement remarquable dans la province du Sud Kivu. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Entre-temps, en Ituri, la situation sécuritaire est relativement calme dans plusieurs entités du territoire de Djougou, en dépit de la présence des groupes armés qui menacent la quiétude de la population. C'est le constat fait hier mardi par une équipe de la MONUSCO qui s'est rendue à Fataki, centre de négoce situé à environ 80 km de la ville de Bounia. Selon des sources locales, cette accalmie est due aux patrouilles mixtes MONUSCO-FARDC effectuées quotidiennement pour étouffer les tentatives d'attaque de ces miliciens. Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis le 1er janvier de l'année en cours que les miliciens de la Codeco ont multiplié des attaques contre des civils et des positions des FARDC dans plusieurs localités sur le tronçon Jina-Fataki. Le dernier cas date de la semaine dernière où un militaire a été tué par des hommes armés dans le village Itsilo. Conséquence de ces exactions, la perturbation du trafic sur la route nationale numéro 27. La plupart des chauffeurs ont résolu de stopper la circulation à 16 heures pour éviter de tomber dans l'embuscade de ces hommes armés. Cela malgré la présence de plusieurs positions des FARDC sur le tronçon Jina Pitso Pimbo jusqu'à Fataki Centre. De nombreux véhicules avec des marchandises en provenance de Mahagi sont obligés de passer nuit à Fataki Centre et à Iga Barrière pour poursuivre le voyage le lendemain. Pour écarter les menaces de ces groupes armés, les forces de l'ordre et les casquets bleus de la MONUSCO intensifient les patrouilles dans la région. De nombreux habitants retrouvés à Jina saluent cette disposition qui permet aux opérateurs économiques ainsi qu'aux usagers de cette route de circuler librement. Ils demandent cependant aux autorités militaires de traquer les groupes armés réfractaires au processus de paix. Pour rappel, une dizaine de civils sont déjà tués sur ces tronçons depuis le début de cette année. Depuis Fataki, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Autre nouvelle, fournir de l'électricité à au moins 5 millions de personnes durant l'année 2024, c'est le principal défi à relever par le projet pilote de facilité solaire mondiale, projet lancé au mois de décembre 2023 en RDC par l'Alliance solaire internationale ISSA en sigle. En collaboration avec Nuru, l'une des principales sociétés d'énergie solaire de la RDC, le projet vise à développer et à construire 15 mégawatts de capacité de réseau métropolitain solaire dans trois provinces de l'est du pays, à savoir les deux Kivu et le Maniema. Plus de détails avec Grace Amzati.
Le docteur Adjé Mathur, directeur général de l'Alliance solaire internationale, souligne le potentiel transformateur de l'approche des Nuru. Je les cite, moins de 20% de la population de la RDC a accès à l'énergie et avec une demande énergétique croissante prévue pour l'avenir, l'approche innovante des Nuru en matière d'énergie renouvelable, fin des citations. L'accès à l'énergie libère l'immense potentiel des marchés à travers le pays. L'entreprise installera une série de mini-réseaux qui alimenteront environ 5 millions de personnes. L'Alliance solaire internationale, à travers son projet Facilité solaire mondiale, soutient Nuru en s'associant avec l'Agence multilatérale des garanties des investissements, MIGA, du groupe de la Banque mondiale. Le plan de Nuru comprend le déploiement de 39 MW supplémentaires dans les phases ultérieures, avec l'espoir de fournir de l'électricité à jusqu'à 5 millions de personnes en septembre 2024. Signalons que le projet est déjà opérationnel au Nord Kivu.
Actualité internationale.
Nous sommes au Kenya. Le procureur général du Kenya a ordonné hier mardi que 95 membres d'une secte apocalyptique soient inculpés de meurtre, de cruauté, de torture d'enfants et d'autres crimes dans le cadre de la mort de 429 personnes supposées être membres de l'église. L'affaire a éclaté lorsque la police a sauvé 15 paroissiens amaigris de l'église de Mackenzie dans le comté de Kilifi, dans le sud-ouest du Kenya. Quatre d'entre eux sont décédés après que le groupe a été transporté à l'hôpital. Les survivants ont déclaré aux enquêteurs que le pasteur leur avait demandé de jeûner jusqu'à la mort avant la fin du monde afin de pouvoir rencontrer le Christ. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Alain Rung Mushinj, Alain Goy à la mise en onde. Merci de rester des nôtres.